Le débat éco ce matin, toujours autour de la nomination de Michel Barnier à Matignon, avec ces mots qu'il prononçait au moment de la passation de pouvoir hier avec Gabriel Attal, lorsqu'il parlait de l'importance de dire la vérité, notamment sur le mur de la dette financière et écologique. Thomas Porcher, Dominique Seux, bonjour messieurs.
Bonjour.
Thomas Porcher, membre des économistes atterrés, professeur à la Paris School of Business, et Dominique Seux, éditorialiste à France Inter et aux Échos, et je signale que vous signez un édito consacré justement à la nomination de Michel Barnier avec la seule question qui vaille d'après vous, et on va commencer par là. Dominique Seux, vous posez cette question: Michel Barnier pourra-t-il passer son budget à l'Assemblée? Au fond, la nomination de Michel Barnier, c'est tout de suite, immédiatement, une affaire de budget.
C'est une affaire de budget, c'est son premier test et on verra si c'est son dernier. Moi, j'estime, pour prolonger un peu l'édito de Patrick Cohen, que il faut collectivement souhaiter qu'il réussisse. Il y a la pile face, mais on sort d'une période quand même de 100 jours électoraux, c'est extrêmement long hein, depuis les élections européennes. Le pays est quand même épuisé, le pays est fatigué, le pays en a ras-le-bol en fait de ce flottement. Je dis, c'est un Premier ministre honorable. Son âge va être un atout.
Honorable. Fois,
oui, honorable. C'est un
compliment.
C'est entre les deux. Oui, c'est parce qu'il a la grande expérience qui est évoquée. Il n'a pas d'ambition pour après. Enfin, on verra bien. Mais enfin,
oui,
a priori,
pour
il
le
pas
moment.
D'ambition. Non, il n'a pas d'ambition pour après. Et il a. C'est un deal maker. C'est-à-dire qu'il a fait partout dans sa vie des deals et il a une qualité, je crois, qui lui permettra parfois de résister à Emmanuel Macron et de marquer des différences, parce que c'est ça que les électeurs attendent, c'est qu'il marque des différences par rapport à Emmanuel Macron. Il est extrêmement têtu. Tous ceux qui ont travaillé avec lui disent ça. Alors, on va évidemment parler plus longuement du budget.
Évidemment. Ouais. Thomas Porcher.
Alors, sur la politique économique, je pense qu'on n'aura pas de surprise. Hein. On a quand même quelqu'un qui a une expérience politique de 50 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé la politique avant que Macron soit né. C'est intéressant, ça. Puisque Macron voulait faire une révolution, et ben, il finit son deuxième quinquennat avec quelqu'un qui fait de la politique depuis 50 ans. Et sur les déficits, il a toujours été clair. Hein. Il a toujours dit qu'il faut réduire les déficits en coupant dans la dépense publique, jamais en allant chercher des recettes supplémentaires. Et il a quelque chose de plus que Macron ou que le centre de la Macronie, c'est qu'il veut une politique de rupture sur l'autorité et l'immigration. C'est toujours ce qu'il a mis en avant. Et donc là, il y a un trait d'union avec le RN. Et je rejoins en partie ce qu'a dit Patrick Cohen sur le fait qu'il y ait un tiers des électeurs qui ont été complètement oubliés. Ce sont les électeurs de gauche.
On va en parler.
Sur la politique économique, quand
Thomas,
même.
Dominique.
Sur la politique économique. Il est évident qu'il n'y aura pas le SMIC le 1er octobre et l'abrogation de la loi.
Il n'y aura jamais le SMIC.
Le 1er novembre.
Jamais.
C'est certain que si Bernard Cazeneuve avait été choisi par et soutenu par le Parti Socialiste il y a 3 ou 4 jours, le Premier ministre serait différent ce matin parce que Emmanuel Macron n'aurait pas eu le choix.
Oui.
Alors, évidemment, c'est différent. Il y aura quand même en politique économique, et là je suis pas d'accord avec Thomas, il va avoir quand même un certain nombre de changements. D'abord, politique au sens large.
Oui.
Des 5 premiers ministres, c'est le 5e hein, du quinquennat, des 2 quinquennats, c'est celui, et c'est hier qui en parlait très bien tout à l'heure, c'est celui qui est le plus intéressé par la question écologique. Les Savoyards le savent.
Alors, ça remonte. Il parlait de dette financière et climatique.
Oui, oui, mais c'est un sujet. Son premier livre a été sur ce sujet-là. Et donc, il est vraiment intéressé. Gabriel Attal n'a pas marqué un intérêt phénoménal pour le sujet.
Après, il faut un budget.
La fiscalité, il y aura évidemment un changement, puisqu'on parle du budget, et on peut s'attendre à des hausses d'impôts, y compris pour les entreprises.
Et en augmentant les impôts et les taxes, Thomas Porcher, la question du budget, elle se résume souvent à ça. Et là, en l'occurrence, puisque Bercy a tiré la sonnette d'alarme sur le déficit qui a dérapé à 5,6% du PIB avant même que Michel Barnier n'arrive à Matignon.
Alors moi, j'ai l'impression que ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire que Macron, ça a fait 70 milliards de baisse d'impôts. Hein. On l'a dit plusieurs fois ici, 40 milliards sur les entreprises et le reste sur les ménages. Et la volonté a été constamment de baisser la dépense publique. D'ailleurs, la dépense publique en volume, c'est-à-dire quand on prend en compte les prix, elle a baissé de 2%. Sous Macron, quand on regarde, si on est très factuel, quand on prend la dépense publique en volume, dès 2018, elle a commencé à baisser, elle était négative. Elle a légèrement augmenté ensuite à cause des gilets jaunes. Puis elle a augmenté très fortement à cause du Covid. Et depuis le Covid, elle ne fait que diminuer. Et donc, ça, cette politique va se poursuivre en volume.
Quand on regarde
la situation factuelle, Dominique, c'est factuel.
Alors, je vais vous donner un autre factuel, pardon. Quand on regarde, j'ai regardé hier les séries longues de l'INSEE. Il faut toujours avoir un petit peu de... Voilà, je consacre mes soirées à des choses absolument passionnantes. J'ai regardé les séries longues de l'INSEE.
Thomas Porcher parlait des 50 ans de vie politique
et ben voilà,
de Michel
regardons
Barnier.
Depuis 50 ans.
Regardons... 50 ans qu'il n'y a pas eu un budget à l'équilibre en France.
Oui, le niveau de déficit dont on parle aujourd'hui, entre 5 et 6%, 5,6% ou 6% du produit intérieur brut, depuis 1960... Il n'y a eu, et probablement depuis la guerre, mais on ne remonte pas aussi loin, il n'y a pas eu de défi, il n'y a eu que deux fois des déficits plus élevés. C'était dans deux crises monumentales. La crise financière de 2008, la crise du Covid. 2023, il n'y a pas de crise particulière. Enfin, il y a un peu une conjoncture un peu molle, mais enfin rien d'extraordinaire. Et nous avons le déficit public le plus élevé. Donc oui, la situation est sérieuse. Sur les dépenses publiques.
Quand même une chose, Dominique.
Sur les dépenses publiques, je finis par
le dire. Il y a eu une crise géopolitique avec la crise ukrainienne. Et il y a eu une inflation comme on n'avait jamais vu depuis les années 70. Donc après 2020. Donc ça fait quand même trois crises successives en l'espace de 4 ans.
Ça n'est pas du tout la même ampleur que la crise financière ou le Covid. Sur les dépenses publiques, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites, c'est l'austérité, c'est la réduction des dépenses depuis des années. Quand on regarde, toujours les séries longues, le pourcentage des dépenses publiques dans le produit intérieur brut, autour des années 2000-2010, c'était de 52 à 54% du PIB. Depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui, c'est entre 56 et 60%. C'est du volume, c'est du relatif.
Non, c'est pas du volume là, c'est du pourcentage de PIB.
Alors là,
Dominique, on va pas rentrer dans la technique, mais je vais vous poser une question. C'est le PIB qui a pas assez augmenté ou c'est les dépenses qui ont trop augmenté? Parce que les dépenses publiques en pourcentage de PIB, c'est une fraction. Et ben c'est le PIB qui a pas beaucoup augmenté, Dominique. Ben je vous le dis tout de suite, regarde, la croissance des dépenses publiques, elle est de 2,3% entre 2000 et 2010. À partir de 2011, elle est à 0,7%. Elles augmentent très faiblement. Elles augmentent beaucoup moins vite. Et la prochaine décennie, elles augmenteront encore moins vite.
Thomas, laissez finir. Quel que soit l'indicateur, les dépenses publiques ont augmenté pas considérablement.
En volume, elles diminuent. Je suis désolé, cette année, elles diminuent en tous les cas de 2%. Dominique, là où je vous rejoins, c'est que vous savez, par exemple, notre dette publique, elle était quasiment stable entre 2000 et 2007. Elle était légèrement au-dessus de 65% du PIB. On était à 67% du PIB. Ça allait. Et là, elle a très fortement augmenté en 2008 avec une crise financière venant des États-Unis. Elle a continué à augmenter. Elle a très fortement augmenté en 2020, également avec la crise du Covid. En réalité, la dette publique, elle fait des bonds à chaque fois qu'il y a une crise. Parce que dès qu'il y a une crise, c'est la force publique qui vient en renfort de l'activité privée pour la soutenir. Et là, vous allez me dire que quoi? Qu'on a trop dépensé? Vous croyez que les instituts ils sont payés 10 000 euros par mois? Non mais c'est quoi l'histoire là? Vous êtes en train de nous dire qu'on a trop dépensé. Mais on n'a pas trop dépensé. C'est que la force publique est venue aider les États quand ils étaient en crise. C'est ça la réalité des faits. C'est pas qu'on a trop dépensé pour les services publics.
Alors une question concernant les chiffres. De combien faudra-t-il, quel sera le montant à économiser, Dominique Seux et Thomas Porcher, pour limiter la casse? Combien de milliards d'euros faudra-t-il trouver pour rentrer dans les clous, réduire le déficit budgétaire? La France s'est engagée à descendre en dessous des 3% d'ici 3 ans.
Un certain nombre d'économies. Alors, est-ce que c'est 20, 25 milliards, 50 milliards? En réalité,
c'est du simple au double, ce que vous nous dites.
Oui, mais les chiffres ne veulent pas dire grand-chose. La question, c'est est-ce qu'on a envie? Comment procéder? Est-ce que c'est avec des économies dans un certain nombre de dépenses ou est-ce que c'est avec des recettes nouvelles? Le niveau d'impôt est déjà élevé en France, mais il y aura des hausses d'impôts, sans aucun doute. On l'a déjà dit, je crois, vendredi dernier. Est-ce qu'il y a des économies possibles? C'est inouï de dire qu'aucune économie n'est jamais possible. La Cour des comptes, il doit avoir au moins 4-5 mètres de rapport les uns après les autres. La Cour des comptes, ce ne sont pas des ultra-libéraux qui se lèvent le matin en disant « toutes les dépenses sont inutiles ». Ils sont présidés par un ancien ministre socialiste de François Hollande aujourd'hui. Avant, il y a eu un député, Didier Migaud, qui était un député socialiste, rapporteur général du budget socialiste. Mmh. Et donc, ce sont pas des ultra-libéraux qui, je le disais, se lèvent tous les matins. La question.
Mais alors, où on les fait les économies? Où? Dites-le-moi, parce que vous dites toujours. Monsieur Macron. Un exemple très simple. Monsieur Macron voulait supprimer 50 000 fonctionnaires dans la fonction d'État. c'est-à-dire l'enseignement, l'intérieur, la défense, la justice, qui font quasiment 80% des fonctionnaires d'État. Bah, très vite, une fois qu'il a fait son effet de manche, il a vu que c'était difficile d'aller supprimer des fonctionnaires là-dessus. Donc il n'a pas réussi. Donc on dit toujours qu'il faut faire des économies. Alors on a fait des économies sur l'assurance chômage, on a fait des économies sur les retraites. Où voulez-vous faire des économies? Et la réalité, je veux dire, c'est qu'on a quand même, je le redis, on a baissé de 70 milliards les impôts. C'est-à-dire que si vous revenez sur l'ISF, si vous revenez sur l'IS, vous récupérez déjà 20 milliards.
Est-ce que Michel Barnier qui a été nommé à Matignon et non pas
Thomas Porchet. Je pense qu'on va aller encore taper sur les dépenses sociales parce que c'est les dépenses sociales qui augmentent, c'est-à-dire les retraites, l'assurance chômage, l'assurance maladie. Et là, au bout du compte, vous frappez une grosse partie de la population, c'est-à-dire l'assurance maladie, les malades, les retraites, les vieux, l'assurance chômage, les chômeurs.
Mais vous ne parlez jamais d'efficacité de la dépense publique. Ce qui est inouï, c'est que nous avons un volume de dépenses publiques qui est élevé, qui est utile et qui est élevé, et les contribuables, mais les citoyens, ne sont pas très satisfaits des services publics qui sont rendus. Donc, on rajoute en permanence des dépenses publiques, il y a de l'insatisfaction. C'est peut-être qu'il y a une question d'efficacité de la dépense publique.
Ça a été dit et ça a été fait. Ça a été fait notamment à l'hôpital, avec la tarification à l'activité, qui devait être une révolution, avec le fait de donner un peu plus de pouvoir aux chefs d'hôpitaux, avec la notation à un moment que voulait Nicolas Sarkozy des hôpitaux. Mais quand vous regardez la part de la dépense publique qui va au service public, elle est stable. Elle est stable, Dominique, depuis pratiquement 78. Elle a 18% du PIB. Donc, c'est pas le problème, ce n'est pas comment on gère l'argent pour les services publics, c'est les prestations sociales qui augmentent. Mais où vont ces prestations sociales, Dominique? Où elles vont? Elles vont dans des paradis fiscaux? Elles soutiennent l'activité.
Dominique Seux vous répondre.
Les prestations sociales, nous avons les prestations sociales les plus élevées collectivement des pays de l'OCDE et d'extrêmement loin. Globalement, le pays aujourd'hui encore ne travaille pas assez. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de personnes qui travaillent, que ce soit les plus âgés, mais y compris d'ailleurs les entreprises qui ne font pas le job, on l'a dit 100 fois ici, en gardant les seniors, en leur offrant des jobs satisfaisants. Mais le financement des retraites est quand même un point qui nous distingue de l'ensemble des autres pays développés. Donc je crois que dire « on ne peut jamais rien faire », je ne dis pas qu'il faut...
On a déjà fait beaucoup, Dominique.
Il faut regarder toute l'efficacité et l'efficacité des services publics et des dépenses publiques.
Ouais. Je reviens à ce que disait Michel Barnier. Michel Barnier disait qu'il fallait dire la vérité aux Français, notamment donc sur la dette financière et climatique. Vous avez l'impression qu'on ne la disait pas avant. Je parlais justement de Bercy qui avait tiré la sonnette d'alarme sur le déficit public. C'est pas une nouveauté. On ne découvre pas quelque chose ce matin, Dominique Seux. Alors, d'un mot, puis Thomas Porchet.
Non, mais c'est un peu, une marotte chez moi, mais je pense que sur la dette climatique, on ne dit pas tout à fait la vérité. Ça devrait être objectivement. Là, depuis trois mois, on parle de politique intérieure, on parle absolument pas des questions climatiques. On a appris ce matin que c'était l'été le plus chaud de l'histoire récente, en tout cas des siècles précédents. Ouais. Ça devrait être évidemment le sujet majeur qui nous occupe.
Thomas Porchet. Tous les rapports montrent qu'on est face à un mur d'investissement majeur et la plupart des rapports disent qu'il faut que ce soit de l'investissement public. Et c'est l'inverse que l'on va faire malheureusement.
Oui, les États-Unis qui ont beaucoup de dépenses publiques et déficits publics font de l'investissement, y compris d'ailleurs en crédit d'impôt pour les entreprises. Ouais, ce ne sont pas des dépenses de fonctionnement.
Non, mais Dominique, en dehors des crises, nous investissons. Nous n'avons pas de dépenses de fonctionnement. Ça aussi, c'est factuel.
Thomas, je crois que nous avons pris le contrôle du studio. Il n'y aura pas de journal à 8h.
Et ça fait rire Patrick Cohen, en tout cas, mais pas du tout Florence Paracuelos. Merci Thomas Porchet, merci Dominique Seux.